Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Bonjour à tous mes amis, un bon dimanche matin, on va se régaler ce matin. Ah oui, je fais pas à moitié, vous le savez, avant d'aller faire le marché, j'aime bien faire un solide petit déjeuner. Je dirais même peut-être un genre de mâchon ce matin avant d'aller se jeter sur les marchés pour trouver les beaux produits. Alors c'est vrai que la période est un petit peu morose, hein. On le sait bien, crise sanitaire oblige, les allers-retours, on ne sait plus, on ne sait pas. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a envie de se faire un petit peu plaisir et à table, ça reste faisable, ça reste possible. Et pour se faire plaisir à table, j'ai reçu ce matin un bistrotier, figurez-vous. C'est comme ça qu'il se nomme lui-même, Stéphane Reynaud, bonjour.
Bonjour Vincent.
Hein, on peut dire de vous que vous êtes un bistrotier.
J'assume pleinement ce terme et j'en suis très fier même.
Ah bah oui, il en est fier puisqu'il il vient de sortir aux éditions du Chêne un opus, mais j'ai envie de dire presque une bible de la gastronomie de bistrot qui s'appelle Bistrotier. Voilà, ça porte. Alors, est-ce que, première question... Stéphane, vous êtes lyonnais par essence, hein, par famille.
Ouais, je suis né à la Croix-Rousse, donc je ne peux pas être plus lyonnais que ça.
On ne peut pas être plus un gone qu'en étant né à la Croix-Rousse. Pourquoi est-ce que ça ne s'appelle pas un bouchonnier ou enfin, en tout cas, vous avez laissé de côté cette parenté des bouchons lyonnais?
Non, je l'assume aussi pleinement et puis elle transparaît également dans mon livre, mais il n'y a pas que le bouchon lyonnais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses autour de, justement, cette gastronomie du matin. Vous parliez du mâchon. Je suis un aficionado du mâchon et j'en organise régulièrement au restaurant. Donc, toute cette nourriture qui, comme je dis, qui donne les joues rouges et puis qui fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de se faire plaisir, d'être assuré. Et je pense que c'est quelque chose de complètement intemporel, complètement moderne. Donc, c'est de la désuétude dans la modernité, c'est la vie.
Alors, chez Oui, mon Général, qui est le nom de votre établissement, dans le 7e arrondissement, juste derrière les Invalides, alors Oui, mon Général, ça tombe très bien, on peut dire qu'il y a une ambiance plus que simplement dans l'assiette, je dirais dans la clientèle, dans l'équipe, c'est un peu une ambassade du bistrot, quoi.
En fait, le bistrot, pour moi, c'est vraiment le lieu de réunion où on oublie qui on est. Donc je trouve que le luxe, c'est le café 1,30€ au comptoir et la Romanée Conti à table. Donc
oui,
ça pour moi,
si
c'est le grand écart absolu. mais je trouve qu'il n'y a pas plus luxueux que ça. Donc c'est ce mélange à la fois de générations, parce qu'il y a énormément de jeunes, de gens un peu plus âgés. Mmh. C'est ce mélange de social, à savoir il y a des cadres, des gens qui ont beaucoup d'argent, comme des jeunes qui viennent au restaurant une fois par mois et qui sont très contents. Donc c'est vraiment cet esprit que j'ai envie de donner et puis de faire plaisir à tout le monde.
Alors ensemble, on va plonger dans le livre, hein, je vous le dis carrément, parce que
je suis là pour.
Moi, tout me fait envie. Vous avez été à une autre époque dans un quartier plus populaire, puisque vous étiez à Montreuil... au bord de Paris,
c'est un faux quartier non populaire. Voilà.
Ouais.
C'est ce qui se dit, parce qu'on est à Montreuil, on se dit, oui, Montreuil, c'est un quartier très populaire, mais ma clientèle n'était pas si populaire
non,
que ça. Elle est plus populaire dans le 7e qu'elle ne l'était à Montreuil, sincèrement.
C'est vrai.
Ouais, vraiment.
Parce que vous drainez, en fait. Hein. Ce n'est pas uniquement les habitants du 7e arrondissement,
non.
Qui est un arrondissement plutôt de vieilles familles bourgeoises, qui ne consacrent pas toujours tout leur budget à la gastronomie, d'ailleurs.
Je suis bien d'accord, je vais me faire taper dessus, mais je voulais un restaurant de province dans Paris, donc un quartier de province, pour moi le 7e, c'est vraiment ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucun magasin autour.
Ça vous fait penser à Lyon un petit peu?
Ah non, Lyon c'est un peu plus vivant quand
même. Ouais, quand même. Hein.
Mais je retrouve dans ce quartier-là le fait qu'on se connaisse, tous les gens y habitent, donc on les croise sans cesse, et puis aujourd'hui quand on est dans Paris, les gens se déplacent.
Ah oui, j'espère, surtout en ce moment où ça roule formidablement bien dans Paris, malheureusement à cause effectivement du télétravail. Alors, 120, 9 chapitres, 250 recettes, c'est difficile de choisir. Hein.
Il y a de quoi manger.
Il y a de quoi manger. Alors, est-ce que c'est purement de la création? Est-ce que vous avez glané à l'extérieur des recettes dont vous aviez envie de parler depuis un moment? Ou est-ce que c'est uniquement ce que vous servez au restaurant que vous avez remis au goût du jour?
Alors c'est... toutes les recettes qui sont dans le bouquin, je les sers au restaurant, évidemment. Mm-hmm. Mais après, quand on parle d'une blanquette de veau, d'un bœuf bourguignon, je veux dire, il y a autant de recettes que de cuisiniers.
Ouais. Donc, et ce sont toujours les vôtres ?
Oui, bien sûr. Après, toujours les miennes, peut-être qu'on va les retrouver autre part, mais évidemment.
C'est-à-dire
que chacun met son grain de sel dans son histoire, sur la tradition, et c'est ce que j'essaye de donner et de dire dans mes recettes. Si vous la suivez, ça marche très très bien. Si vous, dans votre placard, vous avez un petit peu de curry qui reste, pourquoi pas le rajouter pour faire quelque chose de différent ? et vous vous appropriez la recette. C'est ce qui m'intéresse.
Vous n'êtes pas fermé, quoi. Hein.
Ben non, c'est donner le fil conducteur, et ce fil conducteur, vous pouvez le garder jusqu'au bout, ou ben juste prendre des chemins de traverse en gardant ce fil au départ.
Stéphane Reynaud, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, il y a un vrai renouveau. Du bistrot, il y a un renouveau de ces valeurs sûres de la cuisine, parce que lorsqu'on découvre vos recettes, on va y être dans deux secondes, vous en avez cité quelques-unes, on dirait un peu la cuisine de Maigret, hein, c'est-à-dire la cuisine des années 50-60, mais remise au goût du jour.
Bah, en fait, c'est une cuisine, je dirais, qui a toujours existé et qui, pour moi, existera toujours.
Ouais.
Je raconte l'anecdote. Mon premier bistrot, je l'ai monté dans les années 90. Il s'appelle toujours le 14 juillet, il y a des lampions. Et quand je cherchais de l'argent auprès des banques, on était en pleine période de cuisine nouvelle. Il nous fallait manger trois haricots verts sans sauce, sans rien. Je fais, non, mais moi, je vais faire du bistrot, monsieur. Il me fait, bah, je vais pas vous prêter d'argent.
Je voudrais faire la tête de veau, c'est possible.
Bah, ouais, mais il voulait pas me prêter de l'argent. Et mon bistrot, je l'ai ouvert. J'étais complet le premier jour jusqu'au jour où je l'ai revendu. Donc ça prouve bien que c'est une cuisine, encore une fois, qui parle aux gens.
Mmh.
C'est-à-dire que c'est un peu la cuisine du quotidien, mais la cuisine qu'on a envie de partager avec ses amis. C'est-à-dire que la cuisine qui délie les langues, c'est la cuisine qui fait sourire et qui se dit « bah tiens, ma grand-mère le faisait comme ça
ouais. ». Voilà. Et qui ne fout pas des complexes à la clientèle, quoi.
Bah, non,
hein, de se dire « je ne pourrais jamais y arriver, puis de toute façon, je ne comprends pas ce qu'il y a dedans ».
Non, voilà, c'est extrêmement accessible. Et puis, encore une fois, c'est toujours le produit qui fait l'histoire. Donc moi j'ai cette chance aujourd'hui d'avoir mes fournisseurs que je connais depuis longtemps, je vais à l'essentiel par rapport à tout ça et aucun compromis sur la qualité de mes produits.
Bon, allez, on plonge directement parce que ce livre, je vous l'ai dit, moi, on peut ouvrir au hasard et j'ai envie quand même d'ouvrir par un je peux pas dire un plat, mais plutôt une préparation, c'est l'os à moelle. Hein, d'ailleurs, il est magnifique, il est coupé dans le sens longitudinal,
oui.
Hein, à la bistrotière.
Absolument,
hein.
On peut le faire gratiner comme ça, c'est plus simple.
C'est ce que vous faites, surface. Vous
Oui, bien sûr, je passe à la salamandre en rajoutant, encore une fois, mes recettes changent tous les jours. J'ai rien de figé.
Oui, c'est vrai.
Donc l'os à moelle du jour, le lendemain, il sera différent.
C'est-à-dire que ce que vous mettez dessus, en garniture, en quelque sorte, bon, je sais pas, moi, ça va être quand même une tombée d'échalotes persil ou quelque chose comme ça. Ou...
Un peu de chorizo.
Ouais.
Par chance, on vous a donné une jolie truffe, alors c'est un mariage de rêve.
Ah là là, pas mal.
L'os à moelle avec la pointe de truffe, juste la chaleur parfaite aux alentours de 55 degrés, la truffe exhale son parfum et...
Pour ceux qui nous écoutent, on peut le mettre simplement sous le grill ? Enfin, il n'y a rien à préparer ?
Si, il faut le pocher d'abord, le cuire un petit peu, voilà, dans un bouillon, juste pour qu'il soit moelleux à cœur, et après, vous pouvez le manger soit nature comme ça, avec un peu de fleur de sel sur un pain grillé. Avec
oui.
Trois copains, une bouteille de gamay, je pense qu'on ne peut pas être plus heureux.
Hein. Ça fait peur à certains, parce que, il faut bien le dire, hein, la moelle, c'est du gras, quoi.
Mais non, enfin, c'est pas du gras, c'est de la moelle.
Il y a un petit peu de protéines, mais pas beaucoup.
Mais ça, c'est la légende qui dit ça.
Oui, c'est la légende ou ceux qui se penchent un petit peu sur ce que contient les produits. Alors, regardez, quelques pages plus loin, saucisse purée. Alors, on se dirait, non mais là, il se fige un peu du monde, là.
Bah non.
Ça dépend de la saucisse, vous allez me dire.
Bah, alors, un, ça dépend de la saucisse. Deux, ça dépend des pommes de terre que vous allez mettre pour faire votre purée. Et trois, qu'est-ce que vous rajoutez dans votre purée ? Donc, c'est toujours la même chose. Une recette qui paraît très simple, très facile, bah, ça peut être le meilleur des repas qui soit, comme loupé.
D'ailleurs, la pomme de terre, qui est quand même un sujet éminent en France, hein, c'est un peu comme le pain, c'est un de nos sucres lents favoris. Cette pomme de terre, vous en avez quatre, hein, qui sont au Panthéon. Je ne rouvre même pas le livre, vous voyez, parce que je me souviens très bien. Vous avez la BF15,
absolument.
Vous avez la Roseval,
ouais.
Vous avez évidemment la Binch, j'ai envie de dire, parce que c'est la patate des frites, et la Grilla.
Oui. Hein, la Grilla, j'aime bien cette pomme de terre, justement, pour faire mes purées. Et
ouais.
Ça marche bien. Enfin, voilà, je m'y retrouve dans cette pomme de terre-là.
Et vous leur consacrez une page, hein, pour dire, quand même, ce sont mes chéris sous terre. Quoi.
Bah, j'ai envie de donner un petit peu ce qui me touche. Donc, voilà, je suis touché par la pomme de terre. Il faut le savoir.
Donc, alors, écoutez, moi, je suis souvent surnommé Monsieur Patate par mes filles. Donc, j'adore ça. En fait, on pourrait pratiquement trouver une recette à base de pommes de terre ou en garniture, par jour de l'année. Hein. La pomme de terre, on peut la traiter de toutes les façons, c'est extraordinaire.
On pourrait, et les gens en redemandent. C'est en fait, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que vous allez faire un plat, vous allez vous amuser avec plein de légumes, vous proposez ça, et vous n'auriez pas des pommes
oui,
de terre.
C'est ça, oui, c'est ça. Plutôt que la tombée de légumes, mettez-moi voilà. Plutôt des pommes sautées.
On va faire des frites, j'en mangeais à la maison.
C'est ça. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça? Avec la saucisse purée ?
Alors, c'est toujours la même chose. L'accord mets-vin, pour moi, c'est la chose qui n'existe pas.
D'accord.
À savoir, qu'est-ce que vous avez envie de boire ? Ah ben, je boirais bien ça. Qu'est-ce que vous avez envie de manger ? Je mangerais bien ça. Prenez les deux ensemble, ce sera le meilleur accord qui soit.
Ouais, en fait, c'est comme on s'écoute, comme on écoute son corps, mais on écoute son goût, quoi.
Exactement. Si aujourd'hui, j'ai envie de sur une seule meunière, de boire un verre de Saint-Joseph, pourquoi est-ce que je veux dire que ce serait le pire des mariages qui soit ? J'ai envie des deux, donc je vais être content en mangeant l'un et en buvant l'autre.
En tout cas, votre saucisse de Toulouse purée, vous proposez évidemment un Cahors aux notes épicées.
Pour rester
on
n'est
pas
coin.
Très loin, on est en Occitanie.
Mais oui, hein, c'est pour ça. De toute façon, l'idée des vins, c'était vraiment de se rapprocher, encore une fois, au plus près des produits et de faire ces rapports qui... fonctionne, quoi qu'il se passe.
Allez, on se rapproche au plus près de votre cuisine. On va continuer à plonger dans ce livre bistrotier. J'ai peur que ça vous donne envie. Heureusement, il y a des bistrots ouverts le dimanche. Allez, on se quitte une minute, on se retrouve tout de suite.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fernio fait le marché.
Aïe, 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 il fait faim ici hein, en studio, je peux vous dire. Hein. Ça va être dur d'attendre le déjeuner avec Stéphane Reynaud qui est avec nous ce matin. Stéphane qui tient le restaurant Oui, mon général. Ça
tout
pourrait s'appeler
fait.
Même les deux, mon général, hein, parce que hein, quand on parle de vin et de mets, vous préférez
aussi.
Quoi
Non, mais Oui, mon général, je l'assume pleinement, l'histoire.
C'est quoi l'histoire d'ailleurs?
L'histoire, c'est un matin au réveil, ma femme me dit j'ai le nom de ton beau restaurant. Ça va s'appeler Oui, mon général. Bah, j'ai dit
bah, génial.
Oui, mon général.
Okay. On sait qui me dirige à la maison comme ça. Alors, en sous-titre, le livre des joues rouges et des assiettes à saucer. Ça, c'est un manifeste.
C'est un manifeste parce que, encore une fois, moi, je trouve que la table, c'est le lieu où, aujourd'hui, on peut tous permettre, quand je parlais que cette nourriture délie les langues, c'est vrai, quand on se pose autour d'un bœuf bourguignon, on est assis, on commence à boire un canon, on commence à ouvrir un peu la parole, les échanges, et c'est des repas qui traînent. Et ces repas qui traînent se terminent avec les alcools, et forcément, on a un peu les joues rouges, et on est heureux,
ouais.
On est bien, on a envie que ça s'éternise. Mmh. Moi, j'ai ce souvenir des repas du dimanche midi chez mes grands-parents, qui était boucher, charcutier, donc commerçant. Donc on ne savait jamais à quelle heure on allait déjeuner, parce que s'il y avait un gigot à vendre à 14h, bah ils attendaient 14h de fermer
bien
la
sûr,
boutique
bien
pour
sûr.
Vendre le gigot.
Et vous ne saviez pas non plus ce qu'il y aurait au menu, puisqu'on attendait de savoir ce qui resterait, en quelque sorte, parfois.
Eh bien ça, non. Parce que ma grand-mère cuisinait avant d'aller travailler, donc c'était toujours des plats sur le fourneau, en train de mijoter paisiblement. Et donc il y avait ces odeurs au réveil de tous ces plats en sauce, et ce plat-là, bon, pouvait être servi à midi, comme à 15h. Et c'était un peu la force de cette cuisine-là, c'est d'être toujours prête quand nous étions prêts pour la manger.
D'ailleurs, on trouve dans votre livre, évidemment, nombre de recettes autour du saucisson à cuire, du saucisson de Lyon, du sabodet, de toutes ces préparations charcutières qui devaient être l'ordinaire de vos dimanches chez vos grands-parents, quoi.
Un joli ordinaire.
Oui, vous vous rendez compte hein,
C'est pour ça que j'ai vraiment cet amour du mâchon. La nourriture salée le matin, je trouve ça assez magique. J'en organise régulièrement au restaurant. Donc les gens arrivent à 8h.
Ah oui, oui, c'est tôt alors.
Ah bah
oui c'est la tête de veau,
c'est 8h.
L'heure du maquignon, quoi.
et après, ils sortent du restaurant, c'est 11h, avec les joues rouges. Mm. Et ils se disent, mais alors, est-ce que je commence ma journée? Est-ce qu'elle est finie? Enfin, on perd un peu la notion de tout. Donc c'est bien, c'est de reprendre l'apéritif sur les coups d'11h30, comme ça c'est reparti pour un tour.
Alors, moi, ce que je me pose comme question, cette cuisine que j'adore, vous savez, parce qu'elle est aussi attachée aux régions de France et à une cuisine assez traditionnelle, est-ce qu'elle séduit autant la gente féminine que les messieurs? Parce qu'on sent quand même le côté roboratif et masculin. Non, vous avez beaucoup de clientes?
Ah, j'ai tout autant de clientes que de clients.
Ouais.
Sincèrement, il n'y a pas de différence, puisque j'ai quand même des plats un peu plus light à la carte de mon restaurant. Je ne fais pas que des choses...
Vous entendez par là que le light convient mieux aux femmes?
Non, mais c'est vous qui me le laissiez sous-entendre.
Oh non,
donc...
pas du tout.
Si,
j'ai posé la question.
J'ai vu votre regard comme ça, un peu accusateur. Non, mais alors, je vous raconte une anecdote. J'organise une balade en vélo et je dis au petit déjeuner, mangez pas trop, on va faire du vélo, faut pas être trop lourd. Et en fait, à 8h30 sur le parking, j'avais organisé une tête de veau.
Mm-hmm.
Et on me dit, mais une tête de veau, les femmes vont pas le manger, penses-tu? Ça a été mangé, il restait plus rien.
D'autant que c'est gélatineux et pas gras.
Voilà. Hein,
c'est la différence, effectivement, on fait souvent malheureusement un parallèle.
C'est absolument pas gras, la tête de veau.
C'est même très diététique.
Ouais, surtout avec beaucoup de sauce gribiche dessus.
Et puis alors... Oui, ou une belle tartare. Mais d'ailleurs, je vais dire à ceux qui nous écoutent, en plus de cela, c'est du collagène. Ah. C'est-à-dire, pas besoin d'aller se faire une piqûre de Botox ou se faire lifter derrière. Vous mangez de la tête de veau tous les jours, vous aurez un visage bien tendu jusqu'à des âges avancés.
Bah,
magnifique,
hein.
Magnifique, ça sent la tête de veau.
Ah bah, plein nez.
Bien entendu. Alors, il y a un chapitre, en tout cas une part de votre livre qui est consacrée à la cuisine en cocotte. La cocotte, c'est un peu le symbole de cette cuisine mijotée sur le coin du feu.
Ouais, et puis c'est la facilité, encore une fois. Je veux montrer aux gens que cuisiner, ça prend peu de temps. Il y a juste la préparation, et après la cuisson qui va être un peu longue sur certaines
viandes. Il faut surveiller parfois quand même, non ?
Oui, mais si on met au four, qu'on a une bonne cocotte qui va bien, pas trop chaud, généralement on n'a pas besoin d'y être plongé sans cesse. Et pendant ce temps-là, on peut faire autre chose, et c'est ça qui est important. Je veux dire, sur un bourguignon, voilà, vous allez mettre un quart d'heure de préparation, 20 minutes maximum, vous laissez cuire paisiblement.
Ou le jarret de veau en cocotte, là, j'ai la recette sous les yeux.
Voilà, et c'est vraiment magnifique. La cuisine de copains, parce que vos copains arrivent, bah, vous êtes à l'apéro avec eux, vous discutez avec eux, vous passez à table avec eux, et vous passez 5 minutes en cuisine pour récupérer la cocotte et la ramener. Mm-hmm. Ce que j'expliquais avec la cuisine de mes grands-parents, c'est que c'est une cuisine qui sait attendre.
Ah, oui.
Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, bon, c'est prêt, là, à 20h, il faut se mettre à table, parce que sinon ça va être trop cuit.
Alors,
non, ça, bien au contraire, on laisse.
Le
on
père
laisse Fernio,
qui disait souvent, il est de cette génération-là, il disait souvent à bonne cuisine, point d'horloge.
Ben voilà.
Voilà, ça veut dire qu'au fond, c'est la cuisine qui dicte le moment où on va passer à table, plus que le convive.
Oui, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que cette cuisine en cocotte vous permet de traîner et de ne pas être justement tenu à une certaine heure. Si vous baissez votre four à 100, vous avez votre bourguignon qui est tranquille au four, ça bouge plus. Pour rester 2h30 de plus à jouer aux cartes et passer à table après.
Vous avez l'impression, parfois, d'enfoncer des portes ouvertes qui se sont fermées.
Non.
Parce qu'au fond, tout ce que vous dites, c'est du bon sens, c'est de la belle cuisine. On a l'impression que beaucoup le savaient jadis et que ça s'est un peu perdu.
Sincèrement, non, parce que moi, j'ai toujours fait ce métier-là. Je veux dire, ça fait 30 ans que j'ai des restaurants, commencé par un vrai bistrot, après j'ai fait autre chose à Montreuil. Et en revenant vraiment à mes premières amours de bistrotier, je vois, encore une fois, la jeunesse qui est là,
attentive.
C'est multigénérationnel, c'est ça qui est chouette. Donc on se dit que c'est une cuisine qui, de toute façon, va perdurer.
On vous demande beaucoup de recettes, beaucoup de trucs quand on est à votre contact chez vous ?
On me demande beaucoup de choses. Oui, ce soir, par exemple, j'ai un repas de chasse.
Mm-hmm.
Donc ce ne seront que des produits de chasse pour une table de 8 carabins.
Ah oui,
qui m'ont amené un peu des produits chassés que j'ai
cuisinés. Ah oui, qu'on n'a pas le droit d'acheter comme des bécasses, par exemple.
Je sais pas.
Ah oui, on peut
tunnel,
pas dire.
J'entends pas.
On peut pas dire. On peut pas dire. Ouais. Enfin bon, en tout cas, moi je suis assez admiratif de la somme que ça représente, hein, parce que 250 recettes sur des produits très différents. Alors évidemment, il y a la tête de veau, hein, dont on a parlé, qui est en fait comparable à une sorte de. C'est un pot-au-feu de tête de veau.
Complètement.
Hein, c'est cuit à l'eau, donc
oui,
c'est pour ça que c'est diététique, dans un bouillon.
C'est des légumes et de la viande bouillie, donc il n'y a rien de plus... Enfin, rien de, c'est extrêmement diététique.
Alors, il y a un truc que j'adore, et que j'ai retrouvé dans votre livre. D'ailleurs, je salue un ami restaurateur chez Marius, qui est dans le 16e, au bord du stade du Parc des Princes. C'est le Merlan Colbert.
Et ouais.
Ça, c'est une merveille, ça.
Ben oui, on le fait
quand
plus.
On a le beau Merlan.
Ben, mais c'est toujours la même chose. Les produits, moi je travaille avec les criés en direct, donc j'ai des poissons extrêmement frais. Et puis le Merlan, c'est un poisson, entre guillemets, tout bête, mais qui a une chair tellement délicate, c'est délicieux.
C'est vrai que quand il est raide comme la justice.
Ah ben on le prend par la queue, il tient droit.
Par la queue, il doit tenir.
Eh oui.
Mais ça fait
super.
Rêver. Même.
Dites donc, vous avez quelque chose à avouer.
Non, pas du tout. Je n'avoue rien du tout.
Merlan Colbert, c'est ces vieilles recettes, encore une fois, remises, enfin que moi j'aime bien remettre au goût du jour. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il faut lever l'arête par le dos, le remettre à plat. Enfin, c'est.
Ouais, décrivez-nous. En fait, on va ouvrir.
On va ouvrir par le dos le Merlan. Donc on va garder la queue et la tête entière. On va couper l'arête centrale, et après on va venir le paner et le frire. Et c'est délicieux.
Oui, le frire.
Ben oui.
C'est ça qui s'entraîne. Et du coup, la panure va protéger la chair,
tout
en quelque
fait.
Sorte.
Donc,
refaire une peau.
Ça reste extrêmement moelleux à l'intérieur, et puis c'est complètement désarrêté, donc c'est facile à manger. Donc ça, c'est quand même extrêmement bon.
Ouais, et c'est
des poissons qui sont très bon marché.
À nouveau, sauce tartare, là.
Oui.
Ouais,
non, mais un filet de citron.
Ouais, c'est dommage.
Juste un filet de citron, mais non, un filet de citron, une bonne salade croquante, et puis une pointe de fleur de sel.
Vous faites beaucoup de friture, vous ?
J'en fais beaucoup, pas forcément.
Non,
mais
je dis ça parce que c'est typiquement les choses qu'on fait pas à la maison. Hein, bah, généralement parce que ça sent, qu'on n'a pas les extractions, et on est content d'aller au bistrot. Effectivement, vous le disiez, manger des frites,
oui. Hein,
parce que les frites, on les fait pas chez soi, ou alors parfois en ouvrant la fenêtre en grand. Et ça, typiquement, c'est un plat comme le, je sais pas moi, le calmar.
Le calmar, oui. Je fais tous ces plats, mais c'est encore une fois comme c'est le produit qui va me dicter ce que je dois faire et non pas l'inverse.
Faites la cuisine du marché, en fait.
Je reçois mes cours de marché, je travaille en agriculture raisonnée sur tous mes légumes. Donc là, en ce moment, j'ai pas une tomate à la carte, j'aurais jamais une tarte aux framboises en ce moment. Enfin, pour moi, c'est ridicule. C'est de l'histoire ancienne, ça, par exemple. Ça, je passe devant une pâtisserie, je vois aujourd'hui des tartes aux framboises, mais j'ai les poils qui me rient, j'ai envie de rentrer en disant, mais oh, il y a des poils.
Il y a des truffes.
Mais voilà, ça, c'est important. C'est important d'être Stéphane dicté par les produits et non pas l'inverse.
On est bien d'accord, on est presque surpris que ce soit pas plus professé d'abord, plus dit, plus utilisé. Alors, vous vous sentez un peu seul parfois dans cette ambiance bistrotière et dans ce... Non, parce que il y a peut-être un ferment quand même autour de vous de jeunes restaurateurs qui ont cette envie de respecter le produit, de faire simple.
Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes restaurateurs qui arrivent sur le marché ont déjà des cartes très courtes. C'est souvent des menus uniques, donc ils sont dictés par le meilleur produit au meilleur moment. Mmh. Et c'est primordial. Je veux dire, on oublierait même le bio dans ces moments-là, puisque si vous achetez le produit de saison, il va être forcément bon. Donc c'est au meilleur prix. Et je ne verrais pas aujourd'hui comment travailler différemment. C'est-à-dire que les poissons, je les fixe pas sur ma carte. C'est poisson du jour, ou je le mets en plat du jour, si j'en ai deux, si j'en ai trois, c'est parce que j'ai reçu les cours, je dis « Ah oui, ça c'est, il faut le faire absolument.
Bah » Parce que vous en avez envie, vous dites « Ça va absolument faire envie à mes clients. »
Mais ce matin, par exemple, hier, j'ai reçu des petits jols tout frais. Ça, c'est assez magique, quand vous avez ces poissons que je fais frire, juste fariner, frire.
Bien sûr.
Et puis avec une aioli, bah, on y revient un petit peu, mais, mais ça a un goût, c'est... Voilà.
Est-ce que vous... toute la cuisine que vous faites, non seulement vous la revendiquez, mais vous l'aimez, c'est-à-dire qu'elle vous fait encore saliver, vous, tous les jours.
Évidemment, c'est faire à manger, encore une fois, et je ne sais pas si c'est présomptueux ce que je vais dire ou pas, mais c'est vraiment donner de l'amour. Donc, si on fait à manger des choses qu'on n'aime pas, qui ne nous font pas vivre, je ne sais pas comment je pourrais vivre, moi, hein.
Écoutez, je vous aurais bien laissé partir aller voir le cours du marché pour préparer le... Oh ben là, c'est un peu tardif, mais on va dire le déjeuner, hein, le déjeuner du dimanche. Mais ça me fait trop plaisir, puis j'ai pas fini de parler avec vous. Alors je vous garde encore quelques minutes, vous êtes d'accord ?
Avec grand plaisir.
Allez, on se quitte, nous, une minute ou deux, et on se retrouve avec Stéphane Reynaud.
Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fernio fait le marché.
Allez, retour en studio où il fait de plus en plus grand fin. Qu'est-ce que vous voulez, c'est normal, j'ai avec moi le grand prêtre de la bistronomie. C'est Stéphane Reynaud qui est venu parce qu'il vient de sortir un livre qui s'appelle Bistrotier aux éditions du Chêne. Alors tout y est, hein, ou pratiquement, c'est votre bréviaire quoi.
Oui, mais j'aurais pu en mettre encore un peu plus.
C'est
au
vrai.
Bout d'un moment, il faut s'arrêter.
Vous avez éjecté une partie des recettes que vous auriez pu mettre ?
Le souci, c'est qu'on part sur ce qu'on appelle un chemin de fer, donc un nombre de pages qu'on va faire, donc ça va délimiter un peu les recettes. Et après, oui. Donc après, je sélectionne.
Moi,
parce que forcément, j'aurais pu faire le double.
Ah bon, bah écoutez, je suis assez surpris, parce que moi, j'avais l'impression que vous dites, tiens, j'ai envie de ça, on ouvre et on le trouve.
J'espère, mais j'ai envie d'autres choses, donc je vous ne dirai pas lesquelles, parce que peut-être que je fais un autre puce.
Oui, c'est ça, on a peut-être les mêmes goûts, c'est peut-être pour ça aussi. En tout cas, là, il y a une sorte d'évidence. Alors, par exemple, on parlait, avant la pub, du Merlan Colbert. Non, oui. Alors, il y a souvent une confusion, et elle est purement phonétique, avec le Merlan en colère.
Merlan en colère, Colbert. Qui se mord la queue.
Oui, c'est ça.
Voilà. En fait, c'est un Merlan, on vient bloquer la queue dans la gueule du Merlan. Souvent, on vient le tenir avec un cure-dent, et c'est la même chose, il est frit, mais entier.
Ouais, et frit ou poché aussi.
Poché dans un
courbouillon.
Ouais.
Hein, la seule chose, c'est qu'on l'appelle en colère, parce qu'effectivement, il est en rond. Alors, est-ce que c'était pas, en fait, aussi un moyen, là, on révèle un peu les techniques, pour cuire le merlan, qui est assez long et droit, dans une casserole, quoi.
Bien sûr que
hein
si.
Hein, c'est ça l'idée.
Il y a toujours une... une histoire sur les recettes. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça, voilà.
Et là, effectivement, on lui... Alors, parce qu'il faut le savoir, je ne sais pas si vous êtes des fans ou des habitués du Merlan, le Merlan, il a des petites dents très pointues. Oui. Et donc, évidemment, quand on le torque, on lui fait faire une boucle, si on pince bien la gueule du Merlan, ça tient, quoi. Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il est en colère, c'est une manière de dire qu'on lui a coincé, voilà. L'appendice caudal dans la mâchoire.
Je m'en dis.
Oui, il faut trouver des noms. Alors, évidemment, avec les plats, vous proposez des vins.
Oui, l'idée, c'était un peu d'amener des appellations qui souvent sont en lien avec la recette, avec la région.
Bien sûr.
Voilà, de dire aux gens, tiens, qu'est-ce qu'on boit avec ça? C'est surtout pas un guide de vigneron. C'est vraiment plus un guide d'appellation pour remettre aussi quels sont les cépages de tel et tel. De quel est tel est le vin, et puis de redonner un peu quelques détails.
Oui, c'est plus appellation que domaine, en fait.
Ah oui, je parle pas de domaine.
Voilà, parce que peut-être vous auriez eu des pressions ou des envies de mettre en avant vos copains ou vos fournisseurs, ce qui est normal, non ?
Alors, c'est surtout pas ça, c'est plus qu'un millésime sur l'autre, ça change complètement. Donc, d'où la légitimité de dire acheter tel vin de tel millésime sur ce plat-là. Mmh. On va dire, mais j'ai que l'autre millésime que je n'aime. Donc voilà, c'était vraiment éviter ce genre de soucis et de rester extrêmement large dans les choix.
Et puis de donner envie, quoi.
De donner envie et de rappeler encore une fois, voilà, le vin de cette région, donc forcément on se mange avec le plat de la région, et ce vin-là est fait comme ça.
Alors, comme vous êtes en bon lyonnais, les vins, alors d'abord ils sont de partout en France, hein, mais il y a quand même un fort tropisme Auvergne-Rhône-Alpes, entre, on va dire, Côte-du-Rhône, Sud-Bourgogne, Beaujolais, éventuellement, parce que ça c'est votre ADN, quoi.
J'ai grandi là-bas, moi je suis lyonnais ardéchois, donc Saint-Joseph, Coteau du Lyonnais, Beaujolais, c'était un petit peu mon histoire.
Je m'étais posé la question de savoir pourquoi le Saint-Joseph était en couverture, c'est ça.
Oui, l'Ardèche.
Là, c'est un hommage à peine masqué, quoi.
Oui, ça y est, je suis démasqué, complet. Non, mais c'est un vin que j'adore, de toute façon, quoi qu'il se passe. Et je suis originaire de Saint-Agrève, donc sur les hauts plateaux ardéchois. Donc quand on redescend, on arrive à Mauves, on arrive à Saint-Jean.
Et voilà.
Et là, on s'arrête, on repart pas.
On se baigne dans la Syrah.
Le souci, c'est quand on part en vacances, qu'on s'arrête là-bas le premier jour, il faut arriver à partir le soir en vacances, et souvent c'est difficile.
Surtout pour vous, hein, parce que c'est le moment où on retrouve ses habitudes ancestrales.
Voilà, puis on va voir les copains vignerons, et ils sont souvent très généreux.
Ouais, et puis ils vous gardent. Et puis s'ils ne veulent pas vous garder, vous êtes forcé de rester parfois.
J'ai aucune volonté, donc.
Stéphane Reynaud, il y a un plat que j'adore, qui est emblématique de la belle brasserie, du bistrot jadis, c'est la sole meunière, quoi.
C'est
le royaume du beurre sur le poisson, quoi.
Bien sûr, mais c'est un tout petit peu compliqué aujourd'hui de le servir, parce que les poissons sont extrêmement chers.
Surtout la sole.
C'est vraiment un poisson de luxe, donc c'est des plats, moi, je le mets très très rarement à la carte, parce que, voilà, il faut l'acheter très très cher, et je me mets à la place des clients, ça pique un petit peu quand même.
En revanche, ça pique pas du tout comme plat. Hein. Gustativement, c'est la suavité totale.
Ah bah oui, avec un petit beurre noisette qui vient napper comme ça la chair de la sole.
C'est presque un gâteau, quoi.
Oui.
Et alors, évidemment, quand on dit beurré, vous avez proposé avec ça Chassagne-Montrachet.
Chardonnay
beurré, quoi. Soit Meursault ou Puligny, Chassagne. C'est presque un mariage. Alors, effectivement, j'allais vous dire, c'est cher. Vous faites attention, hein, quand même, dans votre resto, en général.
J'essaie de vraiment tenir
vos prix. Hein.
Ah oui, complètement.
Et notamment sur les boissons, le vin.
Le vin est fait pour être bu. Donc j'ai la chance d'avoir des belles appellations, j'ai la chance d'avoir des beaux vignerons qui me vendent du vin. Si j'explose les prix, ça sert à rien. Il faut que les gens puissent les goûter, se faire plaisir au moins une fois sur des jolies choses.
Bon, alors, vous allez dire, à écouter cette émission ce matin, oui, on parle que de chair animale, que de viande, que de poisson, etc. Quid des légumes ?
Pourquoi ? Parce qu'il y a autre chose.
Oui, c'est ça. C'est un peu anti-vegan ce matin. Enfin, en tout cas, en douceur, si on veut les faire venir.
J'ai un plat vegan à la carte tous les jours, tout le temps.
Oui, végétalien ou végétarien ? Non, vraiment, sans rien d'animal.
Sans rien d'animal.
Oui, par exemple, une salade.
Oui, c'est ça, une salade avec un verre d'eau. Non, mais là, je fais un velouté de potimarron avec des falafels de lentilles. Voilà. avec chips de topinambour
Et pas de crème, pas
non,
de
non, pas besoin.
Non, pas besoin. Non, toute la crème est dans le crémeux du potimarron.
Tout à fait.
Et alors, je vais vous faire plaisir. Moi, il y a un truc que j'adore. C'est évidemment la salade lyonnaise. Alors, on dit pas le saladier lyonnais?
Le saladier lyonnais, non. Alors pour moi, le saladier lyonnais, c'est avec des lentilles.
Ah, d'accord.
Pour moi, mais après, je vais sûrement vexer plus d'un qui vont dire « Mais non, jamais de la vie, mais si, moi, pour moi, c'est ça. »
Et les pieds de mouton, les clapotons.
Les clapotons, les fameux.
Les fameux.
Pas facile à trouver, les clapotons, aujourd'hui.
Et non, surtout à Paris, et pour les Parisiens.
Même à Lyon, c'est pas simple. Non, non. La salade lyonnaise, oui, une bonne frisée, encore une fois, il faut une salade extrêmement fraîche, croquante, des gros croûtons... un petit peu doré à l'huile d'olive et des lardons à neuf pochés.
C'est le bonheur.
Mais c'est ça, en fait. C'est cette cuisine simple, je trouve, ça peut être la meilleure cuisine du monde. Et encore une fois, c'est avec qui vous la partagez.
Alors,
c'est ce qui fait la différence.
Deux pages plus loin, petite licence au sud de la France, la salade niçoise quand même.
Attention, là on touche.
Vous allez vous faire allumer, hein, ouais, parce que
non,
chacun a sa version. Hein.
Voilà.
Non, faut mieux pas. Hein.
Voilà. Ce n'est que ma salade niçoise.
Oui, c'est ça. Pas de risque. Mais il y a quand même une salade franc-comtoise.
Oui.
Ça m'a fait plaisir.
Tant mieux.
Il faut aussi en glisser un petit peu. Alors, je ne vais pas faire l'impasse, parce qu'on sait qu'en France, le dessert est important. Mais cette cuisine qui ressemble énormément, cette cuisine de bistrot, qui ressemble énormément à une cuisine maison, en fait, hein, de bonne maison, d'une cuisine bourgeoise. Évidemment, les gâteaux, c'est pas les gâteaux des pâtissiers qu'on trouve aujourd'hui, ou les fameux desserts à l'assiette créatifs. C'est gâteaux aux pommes, gâteaux aux poires, clafoutis. C'est gâteaux qu'on aimerait trouver chez soi, mais on n'a pas toujours eu la grand-mère ou la maman je dis grand-mère ou maman, mais les papas aussi, hein, les cuisines, qui nous ont fait ça quand on était gamin. Vous avez l'impression que cette fin de repas, c'est le dernier retour vers la nostalgie des desserts d'antan?
Je ne sais pas si c'est un retour vers la nostalgie, parce que pour moi, ces desserts sont toujours actuels. Donc je ne suis pas nostalgique de ces desserts, puisque je les vis au quotidien.
Vous vivez dedans, oui.
Voilà.
Mais pour ceux qui viennent les goûter chez vous?
Je pense qu'encore une fois, ça leur ramène à des souvenirs. Et c'est important, quoi, ce côté, encore une fois, de la pomme qui est un peu caramélisée dans le moelleux du gâteau. On va tout de suite avoir un déclic du moment où on l'a mangé chez soi, avec ses grands-parents ou avec quelqu'un d'autre. On dit « Ah oui, tiens, je me souviens ». Elle le faisait, mais un peu différemment. Parce que c'est toujours différent.
On compare, évidemment. Ouais, et l'amour en plus. Allez, avant de vous laisser retourner cuisiner, Stéphane Reynaud, un petit mot. Quand vous avez rendu le manuscrit de ce livre,
oui,
vous pensiez en avoir fini avec ça, ou vous aviez déjà, dès les premières heures, dire « Ah, j'ai oublié de mettre ça ». Il n'y a pas un plat ou deux que vous avez regretté de ne pas avoir...
C'est extrêmement addictif d'écrire un livre, c'est extrêmement égoïste, parce qu'on l'écrit pour soi. On n'écrit pas forcément pour les autres, donc je trouve qu'il y a une vraie part d'égoïsme.
Pour se garder, tout ça.
C'est un petit peu celui-là. Je vous raconte une anecdote. J'ai mon fils Basile, qui est le dernier de mes trois enfants, qui n'a jamais mangé de légumes depuis qu'il est né. Il fait 1m90, 90 kilos, une armoire à glace.
Ah, il faut donner à manger à des bébés comme ça, oui.
Et bien évidemment, il fait ce métier-là, il fait une école hôtelière.
Oui,
et donc ce livre-là, je lui ai dédicacé. C'est pour lui, en lui disant « J'espère que tu vas manger au moins chacune des recettes ». Si tu arrives à manger chacune des recettes, j'aurais vraiment fait mon boulot de papa jusqu'au bout.
Ouais, parce que il traînait avec vous en cuisine, petit?
Non, il venait...
Non, il est venu, voilà, il mangeait.
Mais il est venu, voilà, à 18 ans, il m'a dit « Papa, je vais faire une école hôtelière ». Je fais « Pardon ?» Oui, bon, très bien. Et donc là, il termine, il est en master à Paris, à Ferrandi, et il se passionne de plus en plus pour le bistrot.
C'est bien de sentir que vous allez transmettre.
C'est extrêmement émouvant, oui.
Ouais, hein, ça. Et puis, c'est comme une complétude, quand même. Hein.
C'est surtout que, voilà, moi j'ai grandi, comme j'expliquais, avec mes grands-parents dans la boucherie à Saint-Agrève. Quand j'allais le week-end, les vacances, je passais beaucoup de temps, et mes enfants n'ont pas connu la boucherie, puisqu'elle a fermé avant qu'ils puissent la connaître. Et du coup, cette idée de transmission, cette idée de laisser quelque chose, parce qu'un livre sera toujours là, ça fait du bien.
Alors, les plats s'envolent, ou ils descendent dans l'estomac, mais les écrits restent, hein, Stéphane Reynaud. Donc, on est très heureux, nous, d'avoir Bistrotier pour pouvoir y plonger, trouver des belles recettes. Vous êtes un peu attentif à ce qui se passe autour de vous, parce que ça, évidemment, ça sonne tradit, mais toutes les expériences de street food, de les concepts de restauration, ce qui dépote un peu, vous aimez bien?
Évidemment. Évidemment, moi, je suis extrêmement curieux, je suis extrêmement gourmand, et j'ai toujours envie d'être surpris. Donc je suis toujours à l'écoute, enfin à l'écoute quand je ne travaille pas, donc je ne suis de moins en moins souvent à l'écoute parce que je travaille beaucoup. Mais oui, je suis voilà, attentif aux ouvertures, j'ai envie d'aller les tester, de les goûter. Et c'est très très bien que ça puisse avancer comme ça.
Et le Machon, hein, qui est votre enfance, eh bien, quand on le met avec un DJ dans un coin, des spotlights, des concepts qui décoiffent, ça peut donner ce que j'ai été découvrir cette semaine, qui s'appelle Iconique, dans le 13e arrondissement de Paris, un food court. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous restez avec moi. Merci Stéphane d'être venu.
Merci infiniment.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fernieau fait le marché.
Allez, on continue à faire le tour du marché. Alors, cette semaine, figurez-vous, je me suis intéressé à la street food. Enfin, la street food, en tout cas un concept nouveau qui s'appelle Iconique, qui est dans le 13e arrondissement de Paris, du côté de l'avenue d'Italie, derrière la place d'Italie, en quelque sorte, pour ceux qui connaissent bien Paris, dans le 13e. Et là, c'est un food court. En quelque sorte, c'est un espace dans lequel sont réunis sous la même enseigne différents concepts de restauration. C'est assez nouveau. Si vous n'êtes pas adepte du manger debout, il y a des places assises, mais surtout, vous allez pouvoir goûter des choses extrêmement diverses dans une ambiance un petit peu festive et ça fait du bien en ce moment. J'ai demandé de quoi il s'agissait au créateur du concept, Frédéric Lambert.
Sud Radio, Fernieau fait le marché.
Alors Frédéric Lambert, vous êtes le grand ordonnateur de cette ouverture d'Iconique. Vous êtes le fondateur de Enchanté. Alors c'est quoi les activités d'Enchanté? Qu'est-ce que ça recouvre?
Enchanté, c'est très simple, on croit dans deux choses, le gourmand et le festif. Et généralement, on aime bien quand c'est ensemble. Alors on dit qu'on fait des halles gourmandes et festives.
Ce qu'on appellerait en anglais des food courts, c'est-à-dire des endroits qui réunissent plusieurs concepts de restauration.
Ah bravo Vincent, vous avez tout compris. Food court, food hall, food market, peu importe le terme. Nous on aime bien le terme à la française avec nos halles gourmandes aussi parce que très souvent on va aller chercher des acteurs qui représentent la culture locale.
Alors vous avez été à l'initiative de plusieurs lieux comme ça autour de la capitale et notamment dans le parc floral, dans le bois de Vincennes, qui est devenu la Bamba, mais qui ne s'appelait pas comme ça avant.
Absolument, on a démarré avec le jardin suspendu, lieu éphémère. Pourquoi éphémère? Parce qu'on a voulu tester un modèle qui existe un peu partout en Europe, mais pas en France, des grands lieux de vie où on s'amuse, on fait la fête, on va regarder une pièce de théâtre, on participe soi-même à une pièce de théâtre en théâtre immersif, ou alors on va danser, et tout ça dans un même lieu. On a voulu le tester, ça s'appelait le jardin suspendu, ça s'est appelé la Bamba, et maintenant on se lance dans des lieux, mais en fixe.
Alors ceux qui sont là et qu'on va entendre à tour de rôle... sont en fait des indépendants avec des concepts de restauration. Charge à vous de les regrouper dans un même nid en quelque sorte.
C'est exactement ça. Nous finalement, on est un assemblier. Notre but c'était de trouver pour nous ce qu'on estimait être les plus talentueux des concepts et surtout humainement portés par des gens qu'on adore. Vous en connaissez déjà certains, Vincent, mais nous, on trouve que la qualité de ce qu'on a trouvé ici est incroyable et que chacun des entrepreneurs que vous allez voir a relativement peu de points de vente, donc est extrêmement présent sur le lieu en lui-même. On ne cherchait pas à avoir une ribambelle de franchisés, on n'a rien bien sûr contre les franchisés, juste là, on cherche à avoir un lieu qui a une âme très forte, avec une identité très forte. Et évidemment, elle est d'abord portée par le gourmand.
Alors, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, qui ne sont jamais venus dans ce style d'endroit, d'espace, pour faire simple, un food court, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve?
Pour faire simple, un food court, d'abord, on se régale. Mais on se régale dans des ambiances et dans des lieux différents. Ça, c'est l'élément principal. Donc, on va pouvoir trouver des kiosques différents. Un kiosque asiatique, un kiosque de pizza, un kiosque de burger... Et puis ensuite, on va avoir un bar central, et ce bar central va être responsable de l'animation quotidienne du lieu. Ça doit vivre le matin, le midi, ça doit vivre l'après-midi, on va faire ici des gros défis de cartes, Mario Kart, et puis ça doit vivre le soir. C'est un lieu perpétuellement animé, où on doit se régaler tout au long de la journée.
Alors on va pas se mentir, Frédéric Lambert, généralement les food courts, quand on regarde ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, hein, parce que c'est quand même les précurseurs en la matière, ou même ce qui a été exporté chez nous, moi je me souviens d'un des premiers qui se trouvait au Carrousel du Louvre.
Hein. Je m'en souviens, et vous savez qu'on a travaillé sur ce projet, au tout début, on a fait le lancement purement événementiel de ce lieu. C'était incroyable. Il avait un potentiel, mais il n'a rien d'agréable, ce lieu, quand même.
Oui, parce que c'était pas sous-tendu par une restauration qualitative. C'est vraiment des enseignes de restauration rapide qui s'assemblaient, souvent sous l'égide de la grande distribution, alimentaire notamment. Et là, alors que là, vous allez chercher des indépendants qui sont presque, je dirais, le meilleur de leur genre.
En tout cas, on espère, on a été les chercher. Et c'est vrai qu'on est attaché à la qualité de ce qu'on va trouver. Les concepts de chaîne, on n'en peut plus. Je dis ça en tant que moi, consommateur. J'ai envie d'avoir des vraies surprises. Des surprises, c'est aussi lié au fait que ce qu'on va être amené à trouver ici, on ne le trouvera qu'au sein d'Iconic, parce que chacun des restaurateurs va être amené à proposer et à adapter les concepts pour Iconic. Et ça, ça nous plaît particulièrement. Donc je crois qu'effectivement, dans leur genre, on a ici le meilleur.
Alors, dans l'ADN du lieu, évidemment, un espace dédié qui est suffisamment grand, hein, sans être non plus gigantesque, parce qu'on est à l'intérieur, on est avenue d'Italie, donc juste à côté de la place d'Italie, à Paris, dans le 13e arrondissement. On est ici dans l'enceinte d'un grand centre commercial. Est-ce que ça a vertu à être toujours dans des centres commerciaux ou dans des espaces comme celui-ci ?
Quand nous sommes interrogés sur ces concepts pendant le Covid, assez naturellement, nous sommes allés voir les centres commerciaux en leur disant qu'ils allaient avoir des mètres carrés disponibles. Malheureusement, ai-je envie de dire, mais heureusement pour nous. La question était, est-ce qu'on allait être capable, nous, enchantés, de faire de ces mètres carrés disponibles des lieux de vie enchantés ? Et c'est comme ça que l'idée de ce concept et de ce partenariat avec Italy 2 est née. C'est donc au sein d'un centre. Donc ça n'a pas toujours vocation à être au sein d'un centre, mais il est vrai que les centres ont aujourd'hui des mètres carrés disponibles et que nous, on est capable de créer des destinations food.
Ouais, et puis, ils ont un peu besoin de vous ou de concepts comme celui-ci pour rendre le lieu un peu sexy, hein, parce que c'est le problème des centres commerciaux.
Alors oui, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui sont des grandes tendances dans les centres commerciaux, la restauration et le loisir. Alors le loisir, il y aura plein de choses très intéressantes, j'en suis sûr, dans les années à venir. Nous, c'est sur ce segment de la restauration qu'on appelle festive, qu'on pense qu'effectivement, il y a la capacité à faire venir des gens qui n'avaient pas l'habitude de venir dans les centres commerciaux ou à faire rester des gens qui viennent dans les centres commerciaux autour d'un concept un peu nouveau.
Alors Frédéric Lambert, faites-moi le programme. Ici, combien d'espaces de restauration différents et dites-nous lesquels ?
Alors ici, 4 espaces de destination food différents. On a évidemment Mania à la pizza avec le fameux chef Julien Siri. Mais on a aussi Little Bao Bay en Bao Burger absolument incroyable. Et puis on a Cantine qui est un jeune acteur lui et qui a voulu utiliser et créer sa première enseigne au sein même d'Iconic, qui est aussi sur la nourriture asiatique, et les fameux burgers de poisson de Père et Fiche. Et enfin, un stand événementiel qui sera amené à évoluer et à changer, qui s'appelle la quéqueterie, les fameuses quéquettes et foufounes en gaufres.
Qu'est-ce que j'apprends ? Vous ouvrez avec les fameuses quéquettes et foufounes dès le premier soir pour attirer quel type de clientèle ? Au fond, la jeunesse.
La jeunesse sans doute, mais d'abord parce qu'on trouve qu'en termes d'état d'esprit, ça nous correspond. Nous, on ne veut pas se prendre au sérieux. On veut juste apporter un petit sourire sur le visage de nos visiteurs et on est ravis. Et on pense que la quéqueterie, c'est une manière de ne pas se prendre au sérieux. Et c'est ça qu'on aime dans leur état d'esprit et bien sûr dans toute la manière qu'on va avoir ensemble de créer de la vie dans ce lieu.
Alors, rassurez-moi, Iconic n'est pas frappé par une limite d'âge quelle qu'elle soit. On peut venir à tous âges et notamment accompagner ses petits-enfants, pourquoi pas ?
Ah bah heureusement, nous on adore le côté dans nos lieux populaires, c'est-à-dire qu'on a des parcours et des menus très accessibles et transgénérationnels. On aime bien, il y a des jeunes, il y a des enfants, comme ce soir, on est à l'inauguration et derrière moi, il y a des enfants qui sont là avec leurs parents et ça, j'en suis ravi. Donc oui, surtout tous les âges.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
Ouais, ça me plaît bien, moi, cette histoire multigénérationnelle. C'est vrai que c'est pas toujours simple, hein, lorsqu'on a des enfants, et a fortiori des petits-enfants, de plaire à tout le monde. Hein, au moment où on choisit un restaurant, le soir ou le week-end, et qu'on veut y aller en famille, il faut que le menu plaise à tout le monde. Mais vous verrez, là, au moins, vous ne serez pas déçus, puisque l'offre est très variée. Tenez, par exemple, il y a des pizzas, et pas comme toutes les autres. Ce sont celles de Julien Seri, le chef de Mania Pizza, qui a son stand là chez Iconic. Alors il fait ce qu'il appelle lui des portafolio, qui sont des pizzas à plier. Bah oui, parce que street food, hein, parce qu'il faut pouvoir les manger dans la rue. Alors si vous avez un disque de 40 cm, c'est pas simple à la main. Tandis que là, elles sont pliées comme des, bah, comme des portefeuilles, portafolio, ou des rotolos. Vous savez ce que c'est les rotolos? Ah, bah ça, il faut goûter aussi. C'est une pizza qui est roulée sur elle-même, un petit peu comme un rouleau de printemps. Alors le goût est à l'intérieur. Vous connaissiez le calzone, hein, qui permet effectivement d'avoir ça. Mais le rotolo et le portafolio, ça, c'est vraiment le savoir-faire de Mania Pizza. Et en plus, avec des bons produits. Moi, j'en ai goûté une au pepperoni. Ah oui, ça a du goût, croyez-moi. Et puis, c'est un petit peu piquant, mais c'est pas gênant. Par exemple, juste à côté, je suis allé chez Père et Fiche. Père et Fiche, hein, c'est, je chuchote pas, hein, c'est le nom, évidemment, petit jeu de mots autour du fait que c'est une officine où l'on trouve des burgers de poisson, uniquement de poisson. Et j'ai discuté avec une des associées, la créatrice Ava Mezzani Casanova, qui me disait, nous on est tous du monde du poisson, mes associés et moi, et ce qu'on trouve c'est que soit le poisson est trop cher en général, soit il est mal préparé et c'est gênant. Voilà, on ne sait pas comment faire manger du poisson, faire aimer le poisson à ceux qui n'aiment pas, donc on le met dans des burgers et ça marche fort bien. Et puis, Little Baobei, fondé par Claire Wang, des burgers mais dans des bao, vous savez les ban bao, ces brioches à la vapeur chinoise. Alors c'est un peu l'adaptation chinoise du burger. Je note au passage, j'ai goûté un poulet croustillant, absolument merveilleux, et quand j'ai demandé la recette de la sauce, il m'a dit, ah non, secret de fabrication. Bah oui, hein, chacun ses petits secrets. Il y avait aussi cantine, un espace de l'enseigne Kumo. Kumo, c'est surtout des plats japonais un peu francisés que l'on trouve, par exemple, dans des distributeurs connectés ou que l'on peut livrer au bureau. Et là, on a pu goûter des choses merveilleuses et terminer. Alors, je vous laisse le meilleur pour la fin par les kékettes et les foufounes de la kékéterie. Alors, peut-être vous connaissez pas, mais croyez-moi, les jeunes y connaissent, ils suivent sur les réseaux sociaux cette espèce de pâte à pancake moulée en forme de sextoy. Et voilà, mes amis, après vous être régalés ce matin de pizza, de banbao, de burgers d'hiver et la bistronomie en première partie, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h pour faire ensemble le marché. Alors, c'est un marché qui bouge, ne se résigne pas et met résolument les pieds dans le plat. À dimanche prochain et venez à Jeun.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.